Vous écoutez France Culture.
Pardon du retard, Thomas Cluzel, il est presque midi 32, France Culture. Et c'est votre journal, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous reviendrons tout d'abord sur les débats qui auront agité le sommet informel de Salzbourg. Qu'il s'agisse de la politique d'immigration ou du Brexit, les 27 ont été incapables de s'entendre sur une politique commune en matière d'asile. Tout juste, se sont-ils dit prêts à se rapprocher de l'Égypte pour contrer les arrivées de migrants? Et puis s'agissant du plan de divorce proposé par Theresa May, les Européens ont tout simplement opposé hier une fin de non-recevoir à la Première ministre britannique, laquelle n'a plus que quelques semaines pour trouver une alternative, nous racontera notre correspondant Antoine Gignot.
Et pour évoquer tous ces sujets, invité de la page Europe de ce vendredi,
Cécile Kyenge, eurodéputée du Parti démocrate italien.
Et puis si la crise des réfugiés est aujourd'hui et le plus souvent observée sous le prisme de la politique, elle n'en reste pas moins une crise humanitaire.
Et à ce titre, nous irons avec notre correspondant Aurélien Colli dans un camp de réfugiés de la vallée de la Beka, le long de la frontière syrienne. Là-bas, c'est jour de rentrée des classes, sauf que des centaines de milliers d'enfants de réfugiés ne pourront pas reprendre le chemin de l'école aujourd'hui.
L'actualité en France, à présent, le parti La République En Marche lançait ce matin la bataille pour les municipales.
Avec quel agenda et surtout quelle méthode? Réponse dans ce journal avec Anne Fauquemberg. Enfin, après les inquiétudes exprimées par les évêques de France, le gouvernement en appelle aujourd'hui à un débat apaisé sur la procréation médicalement assisté, décryptage à suivre avec Antoine Marette. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Et même 12h57, puisque vous avez deux minutes à retrouver Thomas Cluzel. Nous recevons, nous, le philosophe américain Dick Howard pour poursuivre cette réflexion autour de l'Amérique d'aujourd'hui. Dans son versant politique, à un mois et demi des midterms, assiste-t-on à la fin d'un cycle politique? L'heure de la revanche a-t-elle sonné pour le camp démocrate? Le philosophe démocrate et américain sera donc avec nous dans ce studio pour en parler.
Merci et à tout à l'heure. Quand bien même derrière chaque phénomène migratoire se cache d'abord et surtout une catastrophe humaine, la crise migratoire semble pour autant se réduire chaque jour un peu plus à décrire plus simplement l'échec du projet politique européen. Alors est-ce un effet du décalage toujours plus grand entre la perception que l'on a des événements et la globalité d'un phénomène? Quoi qu'il en soit, la crise des migrants, ainsi qu'on a pris coutume de la nommer, est devenue au fil des ans ni plus ni moins que l'autre nom donné plus généralement à la crise des structures institutionnelles de l'UE. Hier, réunis en sommet à Salzbourg, les États membres se sont montrés une fois de plus incapables de s'entendre sur la répartition des réfugiés entre pays membres, comme d'ailleurs sur les modalités du renforcement de sa force de garde frontière. Et c'est ainsi qu'après avoir conclu un accord avec la Turquie, puis un partenariat avec la Libye, les Européens souhaiteraient désormais se rapprocher de l'Égypte pour contrer les arrivées de migrants. Une aubaine en réalité pour l'Égypte, dont le régime est aujourd'hui tenu d'une main de fer par le président Al-Sisi, l'occasion en somme pour le Caire d'apparaître aux yeux des Européens comme un bon élève, en dépit donc des accusations qui pèsent régulièrement sur le pays en matière de défense des droits de l'homme. C'est une correspondance de François Hume.
Les dirigeants égyptiens peuvent se réjouir, ils ont réussi à satisfaire l'UE sur un point crucial, limiter le nombre de départs de bateaux de migrants des côtes égyptiennes vers les côtes européennes. Ils sont cités en exemple et s'assurent ainsi la bénédiction de l'Europe qui en retour ferme les yeux sur un régime ultra-autoritaire, coupable selon les ONG de violences et de violations répétées contre les droits humains. Pour cela, l'Allemagne notamment avait mis les moyens dès le début de l'année 2017 en signant un chèque de 430 millions d'euros à l'Égypte pour l'aider à intercepter les bateaux de migrants en partance pour l'Europe. Le gouvernement égyptien a commencé par durcir sa législation contre les trafics. La loi prévoit de lourdes peines de prison contre les passeurs, mais aussi contre ceux qui hébergent les migrants ou leur viennent en aide. Depuis plusieurs années, les Européens s'inquiétaient de voir l'Égypte devenir un nouveau pays de départ massif de migrants vers l'Europe, car même si les chiffres ne sont pas connus avec précision, l'Égypte pourrait être l'un des pays qui compte sur son sol le plus grand nombre de réfugiés au monde. Officiellement, l'UNHCR compte environ 300 000 réfugiés enregistrés en Égypte, mais ils seraient en réalité plusieurs millions venus de la Corne de l'Afrique, de l'Éthiopie, du Soudan, de Syrie ou d'Irak. Nombre de ces exilés ne souhaitent pas rester dans un pays en pleine crise économique, souvent discriminé, victime de violences et même de vastes trafics d'organes, comme plusieurs médias l'ont déjà révélé. Pour l'Union européenne, le régime militaire égyptien remplit parfaitement son rôle de contrôle des frontières et reste pour cette raison un partenaire stratégique, un levier de négociation dont les Égyptiens ont évidemment parfaitement conscience.
Alors, je le disais tout à l'heure, derrière chaque phénomène migratoire se cachent des drames humains, la guerre, l'exil, des conditions d'existence, de précarité, d'hygiène indescriptible, également des problèmes psychologiques, mais aussi, par exemple, les difficultés d'accès à un droit pourtant fondamental, l'éducation. C'est le cas notamment au Liban. Le pays accueille aujourd'hui 1,5 million de réfugiés, soit 20% de sa population totale, et parmi eux, 1,5 million sont âgés de 3 à 18 ans. Or, en ce jour de rentrée des classes, nombreux sont les enfants qui ne pourront pas reprendre le chemin de l'école ce vendredi. Voilà 7 ans pourtant que le gouvernement ouvre ses écoles publiques, notamment aux jeunes Syriens, mais cela ne suffit pas. Selon l'ONG Save the Children, près de 300 000 enfants ne sont toujours pas scolarisés, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les ONG et les associations de continuer à se battre pour tenter de remédier à ce problème. C'est le cas en particulier de Alphabet, qui scolarise 1200 enfants dans les camps de réfugiés de la vallée de la Beka, le long de la frontière syrienne. C'est un reportage signé Aurélien Colli.
Des abris de bâches en plastique, de la poussière et des chemins caillouteux, le camp d'Abou Fares ressemble à tous ceux de la vallée de la Beka. Ce matin, des femmes font cuire du pain, s'occupent de leurs bébés. Des hommes font une dalle en béton pour s'isoler du sol, aride l'été, boueux l'hiver. Au milieu du camp, une tente se distingue. Sur un panneau, on lit « École alternative Alphabet ». Et à l'intérieur, c'est l'effervescence. De ce côté, ils font des maths, des soustractions avec les centaines. De l'autre, ils apprennent à compter, explique Samy, volontaire pour l'association Alphabet. Aujourd'hui, ils sont une vingtaine par classe. Un bon chiffre, car scolariser ses enfants est difficile. Même les plus jeunes peuvent travailler pour ces familles sans ressources, surtout au moment des récoltes dans les champs de la Beka. On essaie de les réintégrer dans une scolarité, de leur apprendre les bases, compter, lire, écrire en arabe, en anglais. On travaille aussi sur leur comportement. Il faut leur montrer que le monde, ce n'est pas que la dureté des camps, insiste encore Samy, pendant que dans une des classes, le maître a distribué des cœurs en papier. C'est essentiel de les éduquer, de les discipliner. Si on ne leur donne rien, ils sont dans la rue et ils resteront dans la rue à leur retour en Syrie, explique Hussein, ancien ingénieur à Homs, qui fait la leçon aujourd'hui. Ils adorent l'école. Quand la journée est finie, ils ne veulent pas partir, sourit le quinquagénaire, qui rappelle que la plupart sont nés ici, qu'ils n'ont connu que les camps de réfugiés. Bien sûr, c'est important, même si la situation est difficile. Sinon, il serait perdu, renchérit Halim, une maman de 7 enfants, qui a vu la différence depuis l'ouverture de l'école en 2015. Moi, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Avant, mes enfants, ils se bagarraient toute la journée. Maintenant, ils sont contents, ils étudient même à la maison, raconte la mère, sous le regard de Ranim, qui a créé l'association Alphabet en 2013. C'est leur droit, le droit de jouer, d'apprendre dans un endroit sécurisé. J'espère juste revenir ici un jour et qu'il n'y ait plus ces camps de réfugiés, conclut cette Syrienne plus aisée, soutenue par des ONG françaises et allemandes.
Un reportage dans un camp de réfugiés de la vallée de la Beka, signé Aurélien Colli. Alors on l'a vu, si la crise des réfugiés souligne aujourd'hui plus que jamais les profondes divisions au sein de l'Union européenne, ce manque de coopération renforcée trouve également à s'exprimer sur un autre sujet. Le Brexit, d'un côté, les Européens appellent carrément la Grande-Bretagne à revoir sa copie, ils se disent même disposés à voir échouer les négociations si Londres ne fait pas de concessions sur la question du commerce et celle de la frontière irlandaise. Et puis de l'autre, Theresa May, tout en promettant d'avancer de nouvelles propositions, prévient qu'elle est elle-même prête à surmonter une situation de no deal. Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Alors dans ce bras de fer, c'est bien la première ministre britannique qui semble aujourd'hui la plus fragilisée. La presse d'ailleurs est particulièrement sévère ce matin avec des mots tels qu'humiliation, désastre, sauf que ce sentiment en réalité va bien au-delà de la seule irritation exprimée par les éditorialistes.
Absolument. C'est le Daily Mirror qui donne le ton avec cette phrase. Votre Brexit est foutu. Les tabloïds mettent à la une l'humiliation de Theresa May face à Donald Tusk et Emmanuel Macron, le président français et le chef du Conseil européen, caricaturés dans le Sun, ils apparaissent comme de sales rats aux méthodes de gangsters. Et Stephen Crabb, député conservateur qui siège au comité Brexit de la Chambre des communes, s'exclame de son côté « Plus vite nous quitterons ce cirque et mieux ce sera. J'ai passé 2 ans, dit-il, à faire des compromis, mais la manière avec laquelle les responsables européens ont rabaissé et réprimandé la première ministre pousse des gens comme moi à demander désormais une sortie de l'Union sans aucun accord commercial. » Du côté des opposants au Brexit, Eh bien, c'est sur Theresa May qu'on tire à boulet rouge. Les méthodes de son équipe puent l'incompétence, explique la femme d'affaires Gina Miller. Ian Duncan Smith, l'ancien chef des conservateurs, crucifie les conseillers du gouvernement, responsables, selon lui, de la débâcle. Alors, Theresa May va-t-elle pour autant disparaître du paysage politique? Pas sûr, écrit Fraser Nelson dans le Télégraphe. Chaque premier ministre a sa spécialité. Thatcher, c'était le combat. Tony Blair, le compromis. Theresa May, elle, a déjà surmonté le résultat calamiteux des élections législatives, le désastre du Congrès des conservateurs l'an dernier. Sa spécialité, c'est la survie.
Merci Antoine Gignot en direct de Londres. Comme chaque vendredi, nous ouvrons à présent notre page Europe. Invité aujourd'hui de ce journal, Cécile Kyenge, eurodéputée du Parti démocrate italien. Bonjour madame.
Bonjour, bonjour à tous.
Et avec moi pour vous interroger en studio, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Avant de commencer, madame, je voulais vous faire écouter ou réécouter la déclaration hier à Salzbourg du président français Emmanuel Macron face au blocage en Europe sur la politique d'asile et d'immigration.
Qui génère la crise? Ce sont ceux qui expliquent. Moi, je suis dans Schengen. J'aime l'Europe quand il faut toucher les fonds structurels. J'aime l'Europe quand elle me donne de l'argent, quand elle permet la prospérité à mon peuple, quand elle permet à mes travailleurs d'aller mieux gagner leur vie dans des pays voisins. Mais chez moi, pas un seul migrant ne s'a pris. Pas un seul. Et à un moment donné, le règlement se fera simplement, comme ils ont poussé d'ailleurs pour certains le Brexit. Les pays qui ne veulent pas davantage de Frontex ou de solidarité, ils sortiront de Schengen. Les pays qui ne veulent pas davantage d'Europe, ils ne toucheront plus les fonds structurels. Et donc il faut qu'au printemps prochain, nous ayons cette discussion en vérité. En vérité. L'Europe n'est pas un menu à la carte, c'est un projet politique.
Madame Kyenge, l'Union européenne est-elle en train d'exploser ?
Bon, moi je crois que si l'Union européenne n'arrive pas, la réponse est oui, si on n'arrive pas à prendre des décisions le plus vite possible. Puisque on a commencé il y a quelques jours avec la décision sur la Hongrie, pour ceux qui regardaient l'activation de l'article 7. Vous savez, la Hongrie, le Parlement a demandé d'activer l'article 7, c'est-à-dire priver la Hongrie de son droit de vote. Et puisque toute cette période, ils ont été contre la démocratie, le pluralisme, la bonne gouvernance, et c'est qui sont contenus dans l'article 2 et du traité de l'Union européenne. C'est la première fois qu'on lit les valeurs de l'Europe qui sont contenues dans nos traités avec le fait qu'on doit mettre en place des sanctions. Et si on ne passe pas et on ne durcit pas ces sanctions-là, je crois que ce que vous avez dit ne tardera pas à arriver. C'est-à-dire l'Europe est en train d'imploser.
Mais alors quel genre de sanctions? Des suspensions de fonds structurels par exemple, comme le propose Emmanuel Macron?
Bon, là, c'est aussi dans le projet de l'Union européenne, hein, c'est-à-dire on a essayé de dire pour tous les États membres de l'Union européenne qui n'accepteront pas de pouvoir accueillir les migrants, on l'a associé aussi au fait qu'ils ne pourront pas recevoir les fonds structurels pour la gestion migratoire, puisque ça n'a pas de raison d'être. Quand ces pays-là ont adhéré au projet de l'Europe, quand ils ont signé et ils ont accepté tout ce qui se trouve dans les principes, les valeurs, ils savent que la solidarité et le partage équitable de responsabilités, c'est une priorité. L'Europe doit assumer sa responsabilité, mais c'est seulement une Europe unie qui peut être une Europe qui peut se positionner aussi au niveau mondial. Donc, et je répète. Le phénomène migratoire n'est pas une question simplement de l'Europe, on doit le gérer au niveau international. Mais si l'Europe n'est pas unie, je crois que nous sommes en train de tergiverser, de prendre un peu de temps, mais il est trop tard. On doit passer tout de suite à avoir des réponses.
Bien sûr. Donc vous êtes plutôt pour durcir le ton, hein, Cécile Kyenge.
Oui. Moi, je crois qu'il est grand temps. D'un côté, il faut durcir les temps. Et d'un autre côté, il faut qu'on donne des solutions concrètes, puisque ce que nous sommes en train d'écouter et le fait qu'il y a une montée du populisme, il y a de toute façon la crise qui a frappé très dur tout le continent européen, ça ne fait que nous faire comprendre que on doit essayer aussi d'écouter la population pour leur donner des solutions concrètes. Puisque là, il y a quelqu'un qui a en profité en instrumentalisant une crise, hein, qui est appelée crise migratoire, mais c'est le phénomène migratoire qui est un phénomène naturel, historique, et que des fois peut assumer de toute façon cet aspect de migration de masse, mais il faut savoir le gérer. Il faut pas simplement sortir avec des slogans, il faut pas simplement sortir en fermant les ports comme est en train de faire Monsieur Matteo Salvini. Le peuple italien, c'est un peuple qui a toujours accueilli tout le monde. Hein. C'est l'Italie qui avait commencé avec Mare Nostrum. Le fait qu'on n'arrive pas à reconnaître tout ça, on n'arrive pas à reconnaître aux Italiens tout le travail et les efforts qu'ils ont fait, eh bien, ça ne fait que mettre en difficulté et tout un pays. Mais je crois que pour les populistes, c'est un terrain fertile. Ça fait voir que l'Europe n'est pas unie, nous sommes abandonnés. Or, c'est pas ça.
Alors après,
c'est simplement une Europe responsable, solidaire aussi.
Alors après, il faut les outils, les bons outils. On parle du renforcement de Frontex, hein, avec 10 000 personnes d'ici 2020. Mais cette discussion, elle n'aboutit pas, car la Hongrie et l'Italie, notamment, craignent des atteintes à leur souveraineté. On parle aussi de réformer le règlement de Dublin. Tout ça avant les élections ou avant la fin de l'année. Vous pensez que c'est possible?
Ben, on ne pourra pas tout faire, hein, mais il y a certaines... on a un peu de retard, puisque c'est depuis 2016. En 2016, le Parlement européen avait voté une résolution avec une très large majorité, et là où on demandait une approche holistique. Et simplement, tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chaque fois en train de, d'une façon émergentielle, là, pour essayer... avec l'urgence d'intervenir sur tel ou tel problème. On doit aborder le phénomène migratoire dans sa complexité, on doit essayer d'intervenir sur les causes profondes, on doit essayer d'intervenir sur le fait que si on veut vraiment que les personnes puissent trouver de toute façon une place là où recommencer leur vie ou construire leur vie dans toute liberté de pouvoir se déplacer, eh ben on doit commencer à travailler sur les politiques de développement. On doit avoir les voies légales. On doit faire la lutte contre les passeurs, les trafics des êtres humains, mais en même temps, le grand défi de l'Europe, c'est pas seulement l'immigration qui, en ce moment-ci, est caractérisée par les demandeurs d'asile, mais il y a aussi des personnes qui sont en Europe. Le grand défi, c'est l'intégration, l'accueil, des politiques, des bonnes pratiques. Il faut qu'on essaie de regarder que dans son interne, l'Europe a déjà des gens sur le territoire. Et c'est ça que les populistes utilisent pour commencer à dire, ils viennent pour nous voler du travail, ils viennent pour prendre nos places, ils viennent pour prendre nos femmes, hein. Il y a aussi ça qu'on écoute, mais non, c'est pas ça. Il faut qu'on commence à voir qu'il y a une immigration aussi qui rapporte à l'Europe, il y a une immigration qui est bonne, il n'y a pas seulement ce qu'on nous fait voir partout que l'immigration n'est pas bonne, mais alors l'Europe doit être consciente et commencer à introduire ce débat un peu partout et prendre conscience du fait que tous les États membres doivent participer et doivent avoir...
Et doivent communiquer sur ce que peut apporter l'immigration.
J'ai pas compris.
Et doit donc, vous dites, l'Europe doit aussi montrer ce que l'immigration apporte de bien. Donc, les politiques ne parlent jamais quand ça va bien.
Ah ben oui, mais c'est ça. Puisque là où nous sommes en train de parler des personnes, à part le fait que de toute façon le capital humain, avec toutes les personnes qui sont là et qui travaillent, hein, il y a des gens qui travaillent, il y a des projets qui ont réussi et qui continuent. Il y a aussi un autre aspect de l'immigration, il y a aussi un autre aspect et, de l'économie dont on ne parle pas. Il y a si vous voyez des bateaux là en mer, il y a des bateaux qui transportent du coltan, il y a des bateaux qui transportent des ressources naturelles et qui sont là. Personne ne dit que ça vient des pays d'où proviennent les migrants. Et dans quelles conditions travaillent ces personnes dans des pays tiers? Eh ben là, personne ne se pose cette question. Mais quand on voit les personnes arriver, et c'est là qu'on ferme les frontières. Eh ben, je crois qu'on doit commencer à intervenir premièrement sur ces causes profondes. Pourquoi les personnes se déplacent? Il y a aussi des bonnes pratiques. Aujourd'hui, l'Afrique est en train de bouger. Pourquoi l'Europe doit renforcer son partenariat avec l'Afrique? C'est simplement pour ça, puisque on ne peut plus commencer à regarder l'Afrique comme si c'est toujours un continent le plus pauvre. L'Afrique, il y a des pays qui avancent. Il y a des pays qui sont conscients de ça. Renforcer le partenariat avec les pays d'origine. Bon, là, j'ai parlé de l'Afrique, mais il y a aussi des pays...
Et on terminera là-dessus.
Il y a aussi... oui.
Merci, merci Cécile Kyenge, eurodéputée du Parti démocrate italien, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Et merci à Annabelle Grelier. En Tanzanie, le bilan ne cesse de s'alourdir avec la reprise ce matin du travail macabre des équipes de secours dont les recherches avaient été interrompues la nuit. Plus de 100 personnes ont péri dans le naufrage hier d'un ferry dans le sud du lac Victoria. Les causes de l'accident n'ont toujours pas été établies, mais de précédentes tragédies dans cette région des Grands Lacs ont le plus souvent été imputées à des embarcations surchargées. Emmanuel Macron reçoit aujourd'hui à l'Elysée le leader de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, fragilisé après la reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem. Jérusalem comme capitale d'Israël, et puis plus largement parce que le processus de paix avec l'État hébreu est tout simplement au point mort. Reste désormais à savoir si cette rencontre entre les deux hommes pourra déboucher sur autre chose que des déclarations de principe. Un nouveau geste dans le travail mémoriel sur la guerre d'Algérie face à la colère d'ex-supplétifs de l'armée française qui réclament réparation à la hauteur du préjudice subi. Emmanuel Macron a promu d'anciens combattants harkis ainsi que des représentants d'associations dans les ordres de la Légion d'honneur et du mérite. L'actualité politique en France, à présent, après le début hier des journées parlementaires du groupe Les Républicains, c'est au tour du Modem de tenir à partir de ce soir son université d'été. Depuis l'épisode du Perchois, on sait que les centristes montrent désormais des signes d'impatience vis-à-vis non seulement de La République En Marche, mais aussi d'un gouvernement qu'ils jugent parfois méprisant, ce qui n'empêche pas d'ailleurs François Bayrou, lequel s'enorgueillit d'un rapport direct et privilégié avec Emmanuel Macron, de vouloir demeurer incontournable dans le nouveau monde de la Macronie. De son côté, le parti La République En Marche, justement, lançait ce matin la bataille pour les municipales. La méthode, mais aussi l'agenda de la future campagne ont été dévoilés. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Et a priori, Nouveau Monde oblige, cette campagne à Paris sera participative.
Oui, pourquoi changer? C'est vrai, une méthode qui a fait ses preuves lors de la présidentielle. Alors, à l'image de la Grande Marche qui a permis de recueillir les doléances des Français en 2016, 2000 intervieweurs vont être lancés dans les rues de Paris à partir du 3 octobre. Qu'est-ce qui marche à Paris? Si vous seriez maire, que feriez-vous? Voilà le type de questions qui vont être posées aux habitants pendant 6 semaines. Objectif, recueillir 10 000 réponses pour alimenter une web radio qui s'appellera Paris et moi. Pacôme Rupin, le député LAREM de la 7e circonscription, est l'un des organisateurs.
On reprend la recette en termes de principe, c'est-à-dire l'écoute. Mais là, on va aller plus loin puisqu'on va enregistrer les Parisiennes et les Parisiens et qu'on va, quand ils en seront évidemment d'accord, publier ces enregistrements sur notre site. Donc on va illustrer tous les témoignages, et ça c'est tout à fait nouveau. Lors de la Grande Marche, nous n'avions pas fait cet exercice d'enregistrer. On va être autour de la voix, autour de l'émotion. Donc on va encore plus loin que ce que nous avions fait pendant les présidentielles.
Voilà pour la première étape, donc les remontées du terrain en termes de besoins. Elle sera assurée par les adhérents En Marche. Ils sont 50 000 inscrits, c'est ce que dit en tout cas la formation politique. 5 000 personnes très actives et motivées pour aller à la rencontre des Parisiens. Quant au résultat, ils seront restitués en décembre prochain.
Et puis, ce qu'on en sait davantage, Anne, sur la désignation de la tête de liste?
C'est l'étape d'après, effectivement. Premier semestre 2019, une commission nationale d'investiture désignera le candidat. Ce matin, toutefois, c'était déjà du sérieux. Les prétendants étaient tous réunis, à l'exception du député Hugues Rançon. Il y avait le sénateur Julien Bargeton et surtout les deux membres du gouvernement, Mounir Majoubi et Benjamin Griveaux, qui pour l'instant se contentent de louer ce si beau collectif réuni ce matin.
C'est important qu'on soit tous là ce matin. Il n'y avait pas que nous deux, il y avait tout le monde. Et c'est tout le collectif qui est derrière vous que vous
voyez. C'est
derrière
vous que ça se passe. Vous ne regardez jamais dans le bon côté. C'est pour ça que vous loupez les trucs importants.
Voilà. Quant à savoir pourquoi cette conférence de presse a eu lieu ce matin, aucun lien évidemment avec les difficultés de la maire Anne Hidalgo, lâchée par son premier adjoint cette semaine, explique Gilles Legendre, le tout nouveau président du groupe à l'Assemblée.
Elle est la mère des Parisiennes et des Parisiens, et donc elle mérite le respect. Et deuxièmement, si on commence à sous-estimer ses adversaires éventuels, on rate souvent son objectif en politique. Donc, en aucun cas, nous ne serons dans un combat de rue avec Mme Hidalgo.
Rappelons qu'à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron a fait l'un de ses meilleurs scores à Paris. 35% au premier tour, 90% au deuxième, des chiffres qui incitent effectivement à rester chic.
Merci Anne Fauquemberg. Le gouvernement appelle un débat apaisé sur la procréation médicalement assistée. L'extension prévue de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules ne mènera pas à une autorisation de GPA, la gestation pour autrui. C'est ce qu'a assuré aujourd'hui la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Antoine Marette, bonjour.
Bonjour.
Cette déclaration intervient en réalité au lendemain de la publication d'un texte par les évêques de France contre la fabrication de l'enfant.
Et ils rappellent leur opposition à la procréation médicale assistée en général, d'abord parce que selon eux, un enfant doit être le fruit d'une relation charnelle et pas d'un procédé technique. Ensuite parce qu'ils s'opposent à la congélation des embryons et leur possible destruction en cas d'embryon surnuméraire. Car pour l'Église, la vie commence à partir du moment où le spermatozoïde rencontre l'ovule. Par conséquent, l'avortement, comme la destruction d'un embryon, s'apparentent à un meurtre aux yeux des évêques. Autre objection face à la PMA, le recours possible à un donneur anonyme. Cela remet en cause, selon eux, le droit d'un enfant à connaître ses origines. En ce qui concerne la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, les évêques estiment que cela poserait un problème supplémentaire, car selon eux, l'intérêt supérieur de l'enfant exige une référence paternelle. C'est aussi la raison pour laquelle l'Église s'était opposée à la loi légalisant l'adoption par des couples homosexuels. Ces positions de l'Église, on les connaît, elles ne sont pas nouvelles, mais dans ce texte, les évêques vont un peu plus loin et se risquent à un exercice d'anticipation assez audacieux. Ils prédisent que, comme la PMA va être ouverte à toutes, la demande de sperme va augmenter sans que l'offre ne suive, et donc cela va aboutir à une rémunération des donneurs, voire à une importation de sperme. Ils craignent donc une marchandisation du don de sperme. Autre prédication des évêques, on va créer la PMA pour toutes au nom de l'égalité et donc, au nom de cette même égalité, on va légaliser dans un deuxième temps la gestation pour autrui pour les couples d'hommes. La Manif pour tous qui tient son université d'été ce week-end ne pouvait pas espérer meilleure rampe de lancement.
Merci Antoine Marette. Un mot rapide du temps pour aujourd'hui. Alternance de nuages et d'éclaircies avec des pluies faibles qui traverseront une large moitié nord-ouest du pays. Les températures entre 17 et 30 degrés cet après-midi.